dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Sheldon.
Comment je me décrirais un auditeur de Nova qui a jamais entendu parler de moi? Je m'appelle Sheldon, je suis un rappeur parisien du collectif 75e Session. Je suis aussi ingénieur du son et producteur de musique.
Dans les oreilles de...
Une pratique de la musique à 360 pour ce multi-instrumentiste, membre fondateur de ce collectif 75e Session, considéré comme l'un des plus influents du rap français des années 2010. Outre ses propres disques, Sheldon collabore soit au micro ou derrière la console avec M le Maudit, le regretté Népal, Isha, Sopico ou encore Sanka, avec lequel il sort en 2018 l'EP commun Bateau Bleu. Suivront des albums solo, tantôt narratifs, c'est le cas de Lune Noire, tantôt baigné dans l'univers des jeux vidéo RPG ou FPS, notamment après Spectre, sorti en 2021. Sheldon est de retour avec Hilo, un disque qui puise entre autres inspiration dans une toile du peintre suisse Arnold Böcklin, L'île aux morts. C'est de ces inspirations dont il sera question sur Nova pendant une heure, des lyrics de Renaud au voodoo de D'Angelo. Sheldon déroule le fil de sa vie musicale et pour commencer, découvrons ensemble par quel titre il a choisi de se présenter à nous.
Le morceau, je pense, pour débuter ce portrait qu'on peut écouter, c'est Fumé. C'est un morceau à moi de mon disque d'avant, pas celui que je viens de sortir, mais celui d'avant. Et je pense que c'est un bon disque pour accéder à ce que je fais éventuellement, et c'est un bon titre sur le disque pour faire ça, il me semble.
Je mets tous mes proches dans la fusée. Depuis petit, je veux m'en aller loin d'ici. Je disparais dans la fumée. À moi, je suis plus efficace quand je suis moins visible. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. C'est un bordel, je veux m'en aller loin d'ici. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. Je fais un gros terre, j'ai la flemme de tout effriter. Je veux briller, mais pour briller, faut un billet. Je veux des billets, je veux les billets pour m'en aller loin d'ici. J'ai déjà vu la fin du niveau. Pour y aller, faut un gilet et un fusil bien aligné. Je me sens solo dans les ruelles de ma ville. Puis qu'il est plus là, j'ai un drôle de truc dans le pire. J'ai déjà vu la fin du niveau. Pour y aller, faut un gilet et un fusil bien aligné. Je mets tous mes proches dans la fusée. Depuis petit, je veux m'en aller loin d'ici. Je disparais dans la fumée. À moi, je suis plus efficace quand je suis moins visible. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. C'est un bordel, je veux m'en aller loin d'ici. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. Je fais un gros terre, j'ai la flemme de tout. Tu veux wesh, tu veux t'en aller d'ici. Alors fais tes bagages et décale dans l'après-midi. Trop de choses me retiennent, mais je veux explorer mes limites. Alors je prends mes angoisses, les regroupe et je les élimine. J'ai rien d'en américain, depuis petit j'suis dans mon truc. J'connais les rues de ma ville, la ZB caché dans mon fut. Moi j'ai rien à prouver, j'suis juste un gosse de Paname qui a grandi trop vite sous une cloche de Napa. J'irais mieux si j'étais loin de ce monde étrange. À moi je sais pas me battre, mais je sais lire le fond des gens. Nous on n'a rien à voir avec le commun des mortels. J'suis pas venu sur la terre pour faire le clown le long des champs. J'mets tous mes proches dans le vaisseau. Là où j'suis y'a plus de réseau, mais c'est bien mieux dans le métro. Oh oh. J'mets tous mes proches dans la fusée. J'disparais dans la fumée. Depuis petit j'm'en allais.
C'est dans cette volute, ou du moins avec ce morceau Fumé, extrait de son avant-dernier album Spectre, qu'il a choisi d'ouvrir cette émission. Sheldon, rappeur et producteur, est notre invité ce matin. De son amour de la guitare à sa déclaration d'amour à Jules, dans quelques instants, vous saurez tout. Bienvenue dans ses oreilles.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Sheldon.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova.
Sur Nova, nos yeux étaient à l'instant tournés vers le ciel. Avec Georges Brassens, avec lui, nous guettions l'orage du nom de ce titre, sorti par le chanteur C'est Toi en 1960. Quelques décennies plus tard, c'est la guitare et la voix de Brassens qui résonnent dans le salon de notre invité, le rappeur et producteur indissociable de la 75e session, j'ai nommé Sheldon. Brassens, oui, mais est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir musical ?
Mon premier souvenir musical, c'est Henri Dess et Anne Sylvestre, les CD et les cassettes carrément que mes parents et mes grands-parents me mettaient, donc les fabulettes d'Anne Sylvestre, c'était chansons pour enfants.
Mon œil droit, ouvre-toi, le gauche ne bouge pas.
Et Henri Dess. J'avais une cassette vidéo avec des clips en dessin animé d'Henri Dess que j'ai beaucoup regardé. Et je pense directement après ces Brassens.
Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps.
Tout le temps chez ma mère et mon beau-père et beaucoup chez mon père aussi, d'une autre manière, c'était pas la même façon d'écouter, mais beaucoup de musique autour de moi tout le temps depuis le début.
Avant que tu t'achètes de la musique, quelle est la première musique qui t'est parlée, enfant, que tu te sois appropriée, c'est-à-dire c'est le disque que t'as eu envie qu'on joue encore et encore sur la platine?
Ah ouais, rien à voir. Je peux te dire exactement lequel c'est. Le disque, parce que Brassens, c'est la musique de mes parents, pour moi. J'ai du love pour Brassens, mais c'est pas, tu vois, je pourrais pas du tout être ce genre de rappeur qui te dit qu'il s'est ultra inspiré de l'écriture de Brassens. Il y a un live des Cramps dont je me rappelle plus du nom. C'est juste leur logo sur fond noir, leur logo en rouge. Et ça me rendait fou. Ça me faisait un effet Famille Adams très fort. Et en plus, carrément, c'est un disque que j'ai jamais réécouté. Et mes petits, je me rappelle que ce disque qui me mettait en transe de ouf, il y avait ça. Et Renaud. Renaud, ça me rendait fou. Je sais pas pourquoi. Je saurais même pas bien te dire pourquoi. Je pense que je connais une période de la musique de Renaud intégralement par cœur, comme si on m'avait mis une puce où il y avait des trucs dedans. Je saurais pas très bien te dire pourquoi, mais quand j'étais petit, ça me mettait en transe. Je pense qu'il y avait le côté rock des orchestrations, mais le fait que je comprenais ce qu'il disait des gros mots et tout, je crois que ça, dès 5-6 ans, ça me...
En arrivant dans la cuisine, je me suis dit, tiens, un petit Ricard. Mais après mes 14 bibines, j'étais un petit peu dans le coltard. J'ai bu un grand verre de Pléline, je me suis vautré dans la caisse du chat. Et dans le biberon de ma gamine, j'ai mis de la sure et du pastaga. La moralité de cette chanson, elle est super, ouais, je veux. C'est que la télé, c'est très dangereux, et le football aussi, un peu.
J'aime bien le côté un peu naïf, en fait. Je crois qu'il y avait un truc qui me plaisait petit dans ça. Le côté les méchants gentils, ou les gentils méchants, ou je sais pas, tu vois, mais ce truc où tu sentais que c'était un peu rugueux, mais que quand même c'était des bonnes pattes au fond, tu vois. Mais même dans les chansons tristes, dans les Manu, dans les... Je trouve qu'on sentait ça, le côté doux et dur en même temps. J'aimais bien, déjà petit, je crois. J'ai deux souvenirs, je saurais pas te dire lequel est le premier. Il y en a un, c'est un peu honteux. C'est une compile qui s'appelle Hit for Kids, pochette jaune, et le CD, il était aromatisé à la fraise. C'est très important parce que c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. On peut remercier les années 2000 pour ce genre de proposition. Et l'autre, c'est Panic Celtic, l'album de Mano. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en plus, je l'ai acheté sans savoir ce que c'était. À un moment où j'étais pas du tout ni sur la question du rap, ni sur la question de la Bretagne. C'était juste que je crois que j'avais l'impression que ça ressemblait à un truc de chevalier, en fait. Tu vois, il y avait le côté, le logo et tout de l'album. Ça me faisait un effet Seigneur des Anneaux, en fait, je pense. Et du coup, je l'ai acheté sans savoir ce que c'était. Et je l'ai pas du tout écouté. Ça, c'était vraiment, à mon avis, à un moment, on m'a lâché dans une Fnac, on m'a enlevé la laisse et j'ai fait n'importe quoi. Les premiers disques que j'ai achetés avec plaisir, je pense que c'était du métal. Je pense que c'était des albums de métal. Moi, je commence la guitare très tôt, à 7 ans. Je suis fort fasciné par le métal et la technique. Bah, pour la guitare, c'est quand même une des disciplines les plus exigeantes, en fait, le métal en termes de technique et tout. Donc, quand t'as 12 ans et après l'adolescence, et où il y a quand même une perception de l'instrument un peu compétition / dépassement de soi-même. En plus, moi, je fais pas trop de sport à ce moment-là. Donc, vraiment, je mets tout dans la guitare et dans le développement technique. Du coup, le métal qui habite mon adolescence jusqu'à bien 15 ans, il y a quasiment que ça. Et alors, les premiers albums, ça va être des albums de ma génération qui sont pas forcément des trucs qui m'intéressent le plus dans le métal, mais qui sont des trucs qui m'ont archi marqué. Je pense qu'il y a Iowa de Slipknot, qui est un album de néo-métal comme ça, vers la moitié des années 2000, par là on doit être 2004-2005, je dirais. I'm a believer, never buy. est un peu une petite révolution, puisque en plus c'est Slipknot, c'est archispé, c'est un groupe complètement créé par Universal en prenant des musiciens de plein de groupes aux États-Unis pour faire un assemblage et pour faire un rouleau compresseur, un super band, mais du coup très efficace pour l'adolescent que j'étais et pile dans la cible, tu vois, ils sont masqués, ils ont des masques un peu gore, ils sont cool, ils sont pleins, c'est moderne. Les anciens du métal, ils aiment pas trop ça parce que c'est nouveau, enfin, tout pour que je me prenne ça droit dans la tronche, tu vois, donc je dirais, ouais, I Owe It Slipknot, et je pense, si je dis pas de bêtises, l'album de Marilyn Manson, où il y a la cover de Sweet Dreams, là.
La guitare, quelles sont les premières choses que tu as commencé à reproduire avant que tu te mettes à vraiment t'exercer sur le métal plus tard, ado et tout?
Les premiers trucs, c'est très rock. J'ai un prof, donc c'est les premiers trucs là, dès 7 ans, c'est des Stones, des Hendrix, des Hey Joe, des Little Wings, ce genre de trucs. Ça, c'est les premiers trucs que je joue. Et après, oui. Il y a un truc qui est archi pionnier, dont on parle pas parce que c'est pas des disques que j'achète, mais le truc qui me rend complètement fou et qui me casse le cerveau à, je pense, 10 ans, c'est Iron Maiden. C'est tous les CD et de mon père et de mon beau-père. Et ça, ça change tout. Je pense que c'est mon groupe préféré quasiment jusqu'à maintenant. Et c'est même pas... alors que c'est très loin de ce que je fais, mais je suis habité par ce groupe quand je suis petit. C'est
pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît ?
Parce que sur les parts de guitare et tout, c'est trop bien. C'est vraiment le groupe de heavy metal où la guitare est devant, où elle est plus importante que le chanteur. Et c'est bien, en fait, c'est juste bien écrit. Les parts sont bien écrites dans Maiden. Et ça, donc j'aime bien l'intelligence de composition. Petit, je pense que j'intellectualise pas trop ce truc-là. Juste, je les trouve archi badass. Je vois juste des mecs qui ont des dégaines pas possibles, des pantalons en col en filet, avec des Doc Martens, des dégaines vraiment qui n'existent pas. Et je crois, petit, ça me fascine. Il y a ça et il y a le... Tu sais, Maiden, toutes les pochettes des albums, c'est que des illustrations, et ils ont un espèce de personnage qui s'appelle Eddie, qu'ils ont décliné, qui est un espèce de zombie, qu'ils ont décliné sur toutes leurs pochettes, toute leur carrière, et ça, ça me rendait fou, le côté BD, illustration, j'aimais trop ça, petit.
Dans les oreilles de
Sheldon.
Alors on a parlé de la guitare, aujourd'hui tu es multi-instrumentiste. Quels sont les autres instruments que tu as appris après la guitare justement ?
Je joue principalement de la guitare, de la basse et de la batterie. Un peu de piano, je suis vraiment pas très bon. Et après, j'essaye de me débrouiller quand il faut faire sortir un bruit d'un instrument de musique et que j'en ai besoin, quoi. Avec à peu près n'importe quoi d'envisageable, quoi. Donc pas les cuivres, pas les vents. Mais j'essaye de me débrouiller d'un peu tout ce que je trouve. Mais principalement guitariste et bassiste et batteur. Parce que mon beau-père, il est batteur. Donc quasiment en même temps que la guitare, lui, il commence à me faire jouer de la batterie. En plus, dès qu'on déménage en banlieue et qu'on commence à avoir un petit espace au sous-sol, et qu'il met une batterie, il commence à me montrer, à me faire jouer. Et donc ça, c'est CM2. Et après, tout début collège, je commence à jouer de la batterie. Et la basse, ça va un peu avec ça. Parce que, en fait, quand il commence à y avoir cette pièce chez moi, il commence à y avoir des instruments, les groupes de mon beau-père qui répètent dans ce studio-là. Et donc, du coup, il commence à y avoir des instruments que je peux toucher quand ils s'en servent pas, et donc je commence à mettre mes doigts dessus et à faire des trucs. Donc ouais, je pense que c'est par la 6e, 5e, comme ça, je dirais. Le concert le plus marquant que j'ai vu de ma vie, il y en a un qui est plus marquant parce que j'ai eu peur carrément. J'ai vu Korn au Zénith, j'avais 14 ou 15 ans, et c'était un des premiers trucs où j'allais seul avec mes potes, Bah donc Korn c'est pareil, hein, c'est groupe de néo-metal, même période que Slipknot, très vénère quoi. Et en fait j'ai eu peur de comment le son il était fort, j'ai eu peur des masses de gens, parce que évidemment on a voulu faire les oufs, donc on est allé en plein milieu de la fosse, comme si on l'avait toujours fait, au milieu de pogo de mecs qui avaient entre 5 et 10 ans de plus que nous, et de mecs et de nanas qui étaient beaucoup plus déterminés que nous dans le développement de soi dans la fosse, tu vois. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là, donc je m'en souviens très bien du côté bien sentir à ce moment-là qu'on n'était pas encore des adultes aussi, tu vois, de me retrouver du coup vraiment une des premières fois au milieu de plein d'adultes, tout seul avec juste mes potes, et en mode bon là on pourrait avoir des problèmes quoi.
Et quel a été ton premier concert de rap?
Je crois que le premier concert, c'est un concert d'un 995 dans une église à Vincennes, à un moment où il s'appelle pas encore un 995. Je pense que le tout premier concert de rap que je vois, c'est ça.
Quand Nekfeu débarque dans ta raie, soit les cheveux en bataille, je ramène soit des sons carrés, soit des nœuds jeux en pagaille, et tu flippes derrière l'œil de bœuf. Mais les gens me réclament et je rentre très calme, je te remercie et je cueille de meuf.
Des femmes sensibles,
non, des pétasses en string dans un état pensif. Je joue le mec attentif, l'état franchi, j'emballe à l'aise, mais t'en chies, t'es mal à l'aise. Tu vois mes mains qui se baladent, la pute est ta frangine. Mais tu n'oses pas déranger le fennec et ses poches trop. Mélanger les serviettes et les torchons. Chier, j'aime les billards, j'fais que les serpettes et les grosses pompes. Certes, mais je ne sers ni les sexes vierges ni les fausses blondes. Fourré dans la cuisine, bourré car je tisse vite. On pourrait faire l'amour, j'vais te la bourrer dans la piscine. Bourré sur la piste, vite, j'fouille le mobilier. Obligé, j'vise Yves, personne ne va m'oublier. J'attrape une bière que j'fais mousser quand j'vois. J'me sens poussé quand j'vois le sang couler et les femmes se prémousser devant moi. Yeah. Et j'veux ma tequila paf. Le genre de jeune qui ne veut que boire dans la tequila. J'attrape un mic, tu peux le voir. J'ai la technique barbare, j'investis la part avec un vrai style à part. Et vous pouvez me croire, j'ai fait des douzaines de gars. Quand j'ai shooté, je jacque pas ces bouteilles de Jack Dax. Bris de glace, bris de tasse, tout ton corps est pris de space. T'entends des bruits dans l'escalier, t'inquiète, c'est Fennec qui se cache. J'ai pris le large, nique la reste, reste. Oh, mais j'veux du vrai sexe. Oh, mais j'aime des belles fesses. Faut les ok, j'excelle, mec, c'est le next level. J'suis trop sec, j'suis le best, j'ai le text level. Toutes mes prétendantes, très bandes entrées. Quand en les tendances vraiment. Entendez cette ambiance dès que j'entre en scène. Entre en caisse, t'en penses frère. Franchement, elle danse en cercle, penchant les hanches sans faire semblant. Mélange de French, cancan et quand je pèse, c'est orgasmique, j'te guélange, j'te laisse en plan. T'adores ma zik, les femmes sont sadomasochistes. Comme les salopards au fils, prennent en cadeau ma saucisse. Joue les tasses au paroxysme, mais j'trouve ça dommage aussi. Hommage au lit, c'est juste un hommage aux filles qui se lâchent au lit. Tous les adomas aussi, roi des rois. Normal, tu croyais quoi? À cause de moi, tes marmots passent au shit. Quand on débarque dans ta raie, soit on frotte des putes, balance une grosse prod brute pour qu'on croque des culs. Quand on débarque dans ta raie, soit on frotte les stupes, roule un gros cône brut pour qu'on smoke des trucs. Ça soit une boîte, ouais, un squat, ouais, ou un palace privé. Si c'est dans Paname, j'y vais avec mon squat. Ça soit une boîte, ouais, un squat, ouais, ou un palace privé. Si c'est dans Paname, j'y vais avec mon squat. Si c'est dans Paname, j'y vais avec mon squat.
Dans les oreilles. Nova. Dans les oreilles de
Sheldon.
Après Korn, mais aussi, je l'ai appris, Corneille, retour sur les premiers concerts de rap auxquels a assisté notre invité ce matin, le rappeur, ingénieur du son et producteur Sheldon. En parallèle de son crew du dojo, la 75e session, il a vu ce qui ne s'appelait pas encore un 995, premier succès pour le désormais très populaire Nekfeu et le talentueux Alpha One. C'était en 2011, il chantait dans Ta Ressoie. Dans un instant, Sheldon revient sur ses disques essentiels, de ce qu'il convoque sur sa platine à l'envie et ce qui lui ont ouvert des voies. On parle inspiration de son dernier disque Hilo, mais aussi de composition et dernière découverte.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Sheldon.
Miles Davis sur Radio Nova avec le morceau de clôture de son disque Kind of Blue, Flamenco Sketches, un album enregistré par le trompettiste en 1959 et que notre invité, le rappeur Sheldon, rappeur et fondateur de la 75e session, cite quand on parle d'essentiel.
Le disque que j'ai plus écouté, c'est sûr, c'est Kind of Blue de Miles Davis. C'est le disque Fascination. Pour moi, il y en a plein d'autres, mais celui-là, je finis toujours par y revenir parce que justement, il est très simple, il est très peu produit, il est très peu mixé. C'est juste les tech live, elles sont trop belles. Elles sont belles dans comment elles sont enregistrées, elles sont belles dans le jeu. Le casting de l'album, il est fou, c'est Coltrane, Bill Evans, Miles, le quintet, il est parfait. Et en plus, l'album a une histoire folle parce qu'il est enregistré. Et en même temps, dans le même studio, sur les heures de pause, Coltrane, il enregistre Blue Train. Donc il y a le truc comme ça un peu mythique de ils font genre les deux albums de jazz les plus importants presque de l'histoire du jazz en même temps. Je crois que ça dure genre 15 jours, enfin c'est éclair quoi le temps de faire. Et ils posent deux monuments et je trouve le disque fascinant, je le trouve trop beau. Et j'aime justement le fait qu'il a rien à voir avec mon métier ce disque là. Moi je fais entre guillemets de la production très sophistiquée, on passe énormément de temps à réaliser les morceaux, à faire. J'aime le fait que ce soit des... Il y a tout ce que je sais pas faire dans ce disque, c'est-à-dire juste brancher 5 musiciens qui ont très bien travaillé et ils jouent et c'est fini. Et ce disque, il sent ça, on entend toutes les ouvertures de fader sur la console, tous les noises, tout, c'est un trop beau disque.
Et quelle musique tu associes au début du collectif ?
Il y en a beaucoup, ça va beaucoup être des disques de rap. C'est le moment où je me mets à écouter beaucoup de rap américain, et là où je me dis, ouais, en fait, j'écoute ces CD et je me dis, ça, on peut le faire, en fait. Je me dis, c'est super bien, c'est très bien fait, et on peut le faire. On n'a pas besoin d'être 15, et donc je pense, il y a le Drake, If You're Reading This, It's Too Late, je pense, lui, il me casse la tête au moment où je le découvre parce que c'est trop intelligent, c'est pareil, c'est archi simple dans la production, archi efficace, archi nouveau, très bien mixé, en tout cas, très mixé, quoi, avec des parties pris très fort. I was running through the six with my woes. And you know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. Running through the six with my woes. You know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. Running through the six with my woes. You know how that shit go. Savez-vous donner des coups à la mode de chez nous? Après, les trucs de rap français, paradoxalement, je pense L'écrasement de tête, le premier album de la section d'assaut, c'est un truc qui m'interpelle aussi. Alors là, c'est pas tellement en fait sur la qualité de réalisation et tout, mais c'est juste sur le côté groupe. Le côté, ils sont pleins et ils ont tous leur rôle, là, comme dans un jeu vidéo, tu vois, tous leur spécialité, leur truc, c'est Gims, il chante, le Fa, c'est le rappeur technique, Black M, c'est le mec qu'entertain un peu, Nadama, c'est le mec sérieux. Ce truc-là, c'est un truc qui m'organise un peu le cerveau pour ce qu'on va faire après. Je le sais pas au moment où je l'écoute, mais je suis archi fasciné par ce truc-là. Je pense que ça deviendra une vraie inspiration forte pour ce qu'on a essayé de faire nous après, quoi. Ça sent les coups de genoux, la concurrence crie made, made. C'est le Paris sans cousin, y'a pas le temps de chanter baby, baby. Ça sent les coups de genoux, la concurrence crie made, made. 75, la 9ème zone, c'est le WTB, WTB. Savez-vous donner des coups à la mode de chez nous? Savez-vous donner des coups à la mode?
Ça, c'est les musiques que tu associes au début de la 75e ?
Ouais, l'écrasement de tête section d'assaut, très clairement, ouais.
Eh, 7-5-16.
Oh,
Sheldon Bourimèche.
C'est toi qui avais raison, poteau.
Tout se passe comme prévu.
qu'est-ce que la 75e session, qu'est-ce qu'on avait dans les oreilles, plein de trucs, beaucoup, en fait, beaucoup de rap français. Pas que, en fait, je me rends compte d'ailleurs qu'on écoutait presque, quand on avait 16, 17, 18, 19, comme ça, on écoutait presque plus de trucs que ce qu'on écoute maintenant. Donc il y avait plein de trucs de rap français, notamment, en plus, moi, autour de moi, j'avais la chance dans le collectif d'avoir des gens qui étaient beaucoup plus encyclopédiques que moi dans ce truc-là. Donc je découvrais plein de trucs, tout en même temps. Booba, la Scred, des trucs beaucoup plus undercover, la rumeur. Mais en fait, on écoutait plein de... Bizarrement, je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, on écoutait plein de reggae français aussi.
Ah oui.
Plein de trucs... Genre Tyro, Big Red, Raga Sonic, tous les trucs qui étaient aussi affiliés hip-hop, hein, bien sûr, tu vois. C'est des trucs qu'on écoutait, quoi, à 19 ans, qu'on a complètement arrêté d'écouter après.
Believe me, this is the wicked original Raga Sonic, along with the original Big Red. Set everything, man, and the sunboy dead. Come in, man, select your heart, your man.
Un peu à côté de nous, grime et dubstep, donc il y a un peu ces trucs-là aussi qu'on entend, qu'on écoute dans des contextes un peu plus particuliers, ces trucs liés plus à des moments liés au graffiti ou comme ça, on peut écouter ce genre de trucs des fois. Mais on écoute vachement de trucs en fait à ce moment-là. Et puis en plus, moi j'ai encore mon truc, j'écoute toujours un peu du métal dans mon coin. J'ai une grosse période reggae aussi, j'ai écouté beaucoup de reggae, plein de trucs. En fait, le truc c'est que moi je suis très boulimique de musique, donc quand je commence à écouter un truc, je veux tout de suite être encyclopédique, donc j'écoute beaucoup beaucoup de choses, plein de trucs. Après, les albums du coup de reggae très marquants pour moi, je pense le premier des Gladiators, ça c'est un truc que j'ai beaucoup écouté, le Hebron Gate de Groundation.
D'ailleurs, quand tu composes tes albums, t'écoutes beaucoup de musique ou à l'inverse, t'as besoin de silence?
Alors, j'écoute beaucoup de musique au studio quand je fais les albums et j'écoute beaucoup d'autres choses et surtout très peu de rap. Là, quand on a fait Hilo avec Epek, le producteur du disque avec qui on a quasiment tout fait tous les deux, on se mettait des vraies séances, mais c'est-à-dire des vraies séances à base de, on écoutait des trucs de Ivan Rebrov, Ivan Rebrov, c'est un espèce de chanteur populaire russe qui a fait une carrière dans la variété française alors que c'est un russe, enfin c'est très très spécifique. Mais non, vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Et tu vois, a beaucoup écouté Alan Holdsworth, qui est un guitariste jazz rock comme ça, très très fort. Mais pareil, c'est très loin de ce qu'on fait.
Mais pourquoi d'ailleurs? Pour chercher des humeurs ou pas du tout, justement, pour vous nettoyer les oreilles de ce que vous étiez en train de faire?
Les deux. Pour se nettoyer les oreilles, parce que ça fait trop de bien quand t'es en train de bosser sur un truc, d'écouter un truc qui n'a rien à voir. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les meilleures idées de morceaux, on les trouvait le plus loin de nous, en fait. Plus on essayait de réfléchir proche de nous, plus on faisait des grimaces de singe, en fait, de la reproduction moins intéressante. Et plus on allait chercher loin de nous, plus ça nous donnait des idées originales dans l'intégration de ce que nous, on faisait. Et plus c'était intéressant, en fait.
Dans les oreilles. Nova. Dans les oreilles de...
Sheldon.
Est-ce qu'il y a un morceau qu'on peut écouter de toi sur toute ta discographie, justement, dont tu es particulièrement content?
J'aime bien Là-haut, le tout dernier morceau de mon dernier album. Je l'aime bien parce que c'est comme une chanson de variété. Ça pourrait vraiment être un genre de chanson de Michel Berger, mais de maintenant. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Et c'est un truc que j'aurais toujours voulu faire, tu vois. J'ai dit à je sais plus qui, il n'y a pas longtemps, que le morceau que j'aurais rêvé de faire, c'est La Groupie du Pianiste. J'adore cette chanson et j'aurais rêvé d'écrire cette chanson. Le propos de la chanson est un peu nul, il est un peu... C'est un peu macho, c'est un... Et des fois, quand une chanson est un peu abrutie, je trouve que ça, c'est finalement la bêtise de la chanson, c'est le vernis qui fait qu'elle est immortelle. Et il y a un peu ça, le côté un peu macho, un peu lourdingue, de la meuf qui admire le musicien comme ça, qui est un truc qui est, si tu veux, complètement désuet. Je trouve que la compo est trop bien.
un beau morceau de variété. C'est l'ambition de ce morceau que le rappeur et producteur Sheldon a choisi d'écouter avec nous et qui clôture son disque Hilo. Attention, changement de piano, voici Là-haut.
Un peu de moi dans le mélangeur, un peu d'amour dans la revanche. Je vous conseille de ne pas me déranger, ne répondra plus à la demande. Le temps qui passe est un fils d'air. Ils m'ont dit que le chemin seulement si je me perds. Je ne veux plus savoir qui me griffe le plus, ni combien tu manipules de style de guerre. Je veux que tu réfléchisses, toi et moi c'est pas la même. T'as toujours une longueur d'avance, puis je suis à la traîne. J'ai plus envie de faire semblant d'être un mec détendu. Tu peux frapper fort, toute façon tes coups je les sens plus. Il n'y a plus de place pour de nouvelles personnes dans mon cœur. Yeah, yeah. Il n'y a plus de place pour de nouveaux problèmes dans ma tête. Yeah, yeah. Emmène-moi aller voir l'océan pour la dernière. Avant que je parte, emmène-moi voler tout là-haut pour la dernière fois. Avant que je parte, j'aime pas sortir dans les bars. Je me sens bien que dans tes bras. Dehors il fait tout gris, sauf quand t'es dehors. Plus assez de force pour mentir. J'suis fatigué de ne plus te voir. J'ai plus assez de force pour grandir. J'suis fatigué de ne plus te voir. Il n'y a plus de place pour de nouvelles personnes dans mon cœur. Yeah, yeah. Il n'y a plus de place pour de nouveaux problèmes dans ma tête. Yeah, yeah. Ooh, emmène-moi aller voir l'océan pour la dernière fois. Avant que je parte, emmène-moi voler tout là-haut pour la dernière fois. Avant que je parte.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de
Sheldon.
Sur Nova, c'était là-haut, morceau de clôture d'Hilo, dernier disque de Sheldon avec lequel on continue de parler composition. Est-ce que toi, tu as des images quand tu composes? Je pense à ça par rapport à justement la toile à laquelle tu fais référence pour Hilo et même à des univers qui te marquent au manga, au fantasy, tout ça. Est-ce que tu as des images en composant ou non?
Grave, moi je suis hyper, c'est mon deuxième truc, les arts plastiques en général, et la BD particulièrement, la BD, le manga, mais la BD en général, la franco-belge, toute la période 70 jusqu'à maintenant. Donc ouais, je compose grave avec des images en tête, en tout cas, je pense que tout ce dont je me suis nourri en termes de bande dessinée et d'illustration d'œuvres d'art, de galeries, est un truc qui nourrit mon imaginaire et que quand j'ai besoin de faire des chansons, je vais piocher dans cet imaginaire-là. Donc c'est des vases communicants. Si tu veux, c'est pas genre je fais un morceau en imaginant une plage ou tu vois, c'est pas un truc comme ça, mais c'est sûr que ça communique grave. J'en parlais il y a pas longtemps dans je crois, l'interview avec Oxmo où je disais que, en fait, au plus je prends des choses d'une discipline artistique qui est loin de moi, encore pareil qu'avec les styles musicaux, au plus j'arrive à en faire des choses intéressantes. Parce que si j'arrive à retranscrire l'émotion que j'ai qui me vient d'une page de BD ou d'une case dans une chanson, et ben une fois qu'elle est retranscrite dans la chanson, elle a plus du tout sa source d'origine. On n'invente quasiment jamais rien. Mais par contre, on est tout le temps en train de créer des choses. J'ai l'impression que là, on arrive à créer les choses les plus spécifiques et les plus intéressantes, à mon sens, c'est quand on prend des choses très loin de nous et qu'on arrive à les ramener à notre environnement, à nous, et qu'on arrive à les rendre familiers, quoi.
Un regard pensif vers l'autre rive. Le monde ne voulait pas faire tout ce grabuge. Il a marché des heures pour l'obtenir. Il a gagné son ticket pour la lune, récupérer l'épée. Le gamin ne veut pas énumérer ses plaies. Il pose un caillou dans le réceptacle qui permet à l'univers de rester stable.
Est-ce que t'as un exemple précis, justement?
Ouais, bah Lune Noire, mon premier album. donc deux albums avant celui-là, où je raconte une histoire en entier. Je pense que c'est une œuvre qui est très inspirée par des œuvres qui sont pas musicales. Je pense que c'est à la fois très inspiré du Petit Prince, très inspiré de tout le truc héroïque fantasy qui nourrit même le jeu de rôle, de vraiment l'idée d'écrire une histoire fantastique. Et c'est aussi un truc qui m'a ultra stimulé à faire ce disque, c'est le disque de la comédie musicale Émilie Joly.
C'est nous la compagnie des lapins bleus, aux oreilles tendues et aux yeux malicieux. Notre fleuve préféré, c'est le Danube. Mais notre problème insoluble, c'est qu'on devient tout rouge quand on attrape un rhume.
Tu vois, c'est très loin du disque. Alors, il y a des refs un peu dans le disque, notamment il y a un lapin bleu, donc il y a un truc qui est lié un peu avec ce disque-là, mais si tu le sais pas, tu peux...
Mais il y a toujours un peu des indices par moment.
Ouais,
dans
c'est
les
ça.
Albums.
Mais par contre, je pense que c'est pas trop devinable, en fait. Alors que moi, Émilie Joly, et comment ça marque, d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé quand je suis petit, ce disque. Comment ça me parle, comment j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire que je comprends même pas très bien, parce que des comédies musicales, le déroulé narratif, c'est jamais très clair, tu vois. Mais tu comprends des tableaux, des événements, et comment ce truc-là, ça me frappe. C'est une quasi-obsession de réussir à reproduire ça sur Lune Noire quand je le fais. De reproduire le fait de raconter une histoire, mais que ce soit pas très important qu'on comprenne toute l'histoire dans l'ordre exactement comme je veux, mais que par contre de laisser des tableaux et des empreintes dans la tête des gens, je pense que ça me vient de ce disque-là, qui est très loin de moi, quoi. Disque que j'aime conseiller aux gens quand ils ne le connaissent pas, et où je peux même être un peu pénible jusqu'à ce qu'ils l'aient écouté, surtout avec mes stagiaires, avec le vaudou de D'Angelo. Le vaudou de D'Angelo, il est trop fou, il est trop bien mixé, ce que Russell Elevado, l'ingé, il a fait, c'est fou. Tout le monde joue bien, Pino Palladino, il est légendaire, tout le disque est fou, quoi. Et pour moi, c'est un modèle d'équilibre entre l'intelligence de prise en studio et l'intelligence de mixage derrière. C'est un des disques les plus importants de l'histoire de la musique moderne, en tout cas pour moi.
Comment t'aimes écouter la musique ? Dans quelles conditions ?
Eh ben, de plus en plus au studio, parce que
ici,
moi je suis dans celui d'à côté, mais qui ressemble beaucoup. Enfin, ils sont très jumeaux. Ouais, ici sur des superbes enceintes, dans une super acoustique. Forcément, je m'habitue à ça. Ça et alors c'est deux opposés. Ça et dans le métro. Voilà, c'est ça les deux trucs.
Direction Montreuil, prochain train dans 4 minutes.
Je pense dans le métro, c'est les derniers endroits où j'arrive à écouter de la musique comme un auditeur et où je m'en sers vraiment comme un moyen d'oublier ce qu'il y a autour de moi et tout. Et ici, évidemment, c'est forcément plus analytique et plus quand j'écoute des albums, parce que ça fait partie de mon métier de comprendre des albums. Tous les jours, je veux comprendre des nouveaux albums, les écouter, les décortiquer. Mais forcément, j'ai énormément de plaisir à écouter ça ici.
Alors je vais te poser cette question en deux temps, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment et justement qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que le mélomane écoute en ce moment et qu'est-ce que l'ingé son, le producteur écoute en ce moment ? Toi dans tes deux différentes écoutes, l'écoute du métro, l'écoute du studio.
En ce moment j'écoute un truc qui s'appelle Edgy Cook. Un anglais je crois qui a sorti un espèce de disque, je saurais même pas décrire, c'est en 7 parties. C'est en 7 disques, c'est hyper expérimental, c'est un mec de la génération un peu producteur hyper pop et tous ces trucs là, mais en même temps le disque il est il va un peu dans tous les sens. La première partie du disque, c'est que des drums, des batteries et des samples de batteries, et sans rien, sans mélo. Donc ça, c'est presque un peu inécoutable, mais c'est quand même hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais après, sur le disque, il y a des trucs complètement fous. Il y a une reprise de Chandelier de Sia qui est, pour moi, une des meilleures covers que j'ai entendues de ma vie, tout confondu. Je la trouve incroyable. Et donc, ça, c'est le dernier truc que j'ai écouté et qui m'a bien matrixé en tant qu'ingénieur du son. I'm gonna fly. Et dans le métro, c'est Joule. Hein. Beaucoup de Joule en ce moment, beaucoup de Joule depuis beaucoup d'années.
Elle a le regard qui étudie, qui tord. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas.
Ça me fait beaucoup de bien comme musique et je...
Pourquoi ? Pour l'énergie ?
Parce que c'est trop bien, parce que c'est trop bien, parce que la musique c'est ça, parce qu'il a tout compris à ce que c'était la musique. C'est bien, ça fait du bien, c'est joli, c'est agréable à écouter, c'est bienveillant à l'égard de ses auditeurs. Quand c'est naïf, ça l'est jamais trop, quand c'est sincère, ça l'est jamais trop. Je trouve qu'il est juste. C'est même pas un truc de... Il y a eu une espèce de mode à un moment de dire que Joule c'était incroyable, mais non, moi je trouve juste que c'est un artiste juste et sincère et archi touchant, archi talentueux, et j'adore l'urgence, le côté urgence de créer beaucoup, plein d'albums, plein d'albums, et même si on est très célèbre, on continue à faire 4-5 albums par an parce que ce qui fait du bien, c'est de faire de la musique et de faire kiffer les gens. Donc je respecte tout dans la démarche, je crois, en fait.
Ouais, là, hop, encore un album.
Le dernier disque que j'ai écouté, c'est l'EP de Silug. C'est un jeune rappeur très talentueux et c'est son dernier EP. Et c'est ce que j'écoutais en venant. C'est trop cool. Il est trop fort.
J'ai vu dans une salle d'attente chez un médecin, pas envie d'être là. Et maman s'inquiète moins depuis que je suis beaucoup moins sous cette là. Non, les mains sont jaloux, vous êtes là. J'ai roulé un joint avec deux potes, donc j'ai tiré cette là. Quand je fais mal, je fume, c'est comme une corrélation. Je marche dans ma ville comme dans un film, résumé des corps et actions. Et je suis pas une étoile, moi je suis une constellation. Tu m'écoutes rapper, puis tu vois mon rap une consécration.
Et dernière question, c'est quoi la musique pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
C'est ma vie, déjà. Donc je fais quasiment rien d'autre. Et tout ce que je fais est en lien de près ou de loin avec ça. Donc déjà, moi, ça représente un truc pour moi, si tu veux, qui est très différent de ce que ça représente pour les gens en général, parce que ça représente autant de choses compliquées que de choses bien. C'est-à-dire que je pense que la musique, pour moi, c'est quelque chose qui doit faire du bien aux gens, mais en même temps, moi, c'est mon caillou, quoi. C'est mon caillou de Sisyphe que j'aime et que je déteste tous les jours avec la même intensité.
J'ai besoin d'une balade en plein air. J'suis pas sûr de retrouver le chemin. J'ai besoin d'une balade en pleine mer. J'suis pas sûr de regagner la terre ferme.
Fin de cette heure passée en compagnie de Sheldon, le rappeur et producteur indissociable de la 75e session, était notre invité ce matin. Sheldon qui présente son dernier disque, Hilo, produit avec son complice Epectase, les 15 et 16 juin prochains à la Maroquinerie à Paris. Merci à Malo Williams pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est d'ores et déjà disponible en podcast et en version augmentée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, vous le savez, dans quelques minutes, côté grand mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre
le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.